camarade intellectuel est capable de procéder à des analyses qui tiennent debout. J'ai dit à ma femme, fais les valises, on rentre à Paris.
C'est dangereux de conduire bourré, mais on va quand même pas rentrer à pied.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Gibraltar, y a un jeune noir qui pleure un rêve qui prendra vie une fois passé Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme celui qui portait le nom de cette montagne. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster rappeur. Mais sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours empêchaient d'être. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui boit. Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta. Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu, et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus. Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui. Faut rien dire et tout est dit. Et soudain il se fait derviche tourneur. Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur. Enfin il hurle comme un fakir, que la vie devient disciple. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui prend vie, qui chante, dit enfin je t'aime à cette vie. Puis les autres le sentent, le suivent. Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivres. Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles et déchirer à leur tour cette peur qui les voile. Détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave. Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance, il dit ramons tous à la même cadence. Dans le bar, y a un pianiste et le piano est sur les genoux. Le jeune noir tape des mains, hurle comme un fou. Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse, qui le démontait pièce par pièce. Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune noir qui enfin voit la lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit. Désormais l'amour seul sur lui a des droits. Sur le détroit de Gibraltar, un jeune noir prend ses valises, sort du piano bar et change ses quelques devises. Encore gros d'émotion, il regarde derrière lui et embarque sur le bateau. Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut. Du détroit de Gibraltar, un jeune noir vogue. Vogue vers le Maroc tout proche. Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme sur le détroit de Gibraltar. Sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc sur le détroit de Gibraltar. Vogue. Vogue vers le merveilleux royaume du Maroc. Du Maroc. We'll be right back.
moi qui ai vécu sans scrupules, je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je ne devrais pas crier encore. Moi le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu, je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. Vivre, vivre, même sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Dites-moi que le bon Dieu existe, qu'il a une barbe et la main, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes, dites-moi que les poules ont des dents, que je jouerai du violoncelle là-haut dans mon costume blanc. Vivre, vivre, même sans maison, même sans souliers. Vivre, vivre, blasphème facile, et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Qu'il m'excuse si je suis lâche, je veux bien rire autant qu'on veut, mais quand on se trouve à ma place, on prend quand même un coup de vieux. Vivre, vivre, même bancal, même à moitié. Ce qu'a dit le père Hugo, moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Non, je n'ai vraiment plus la force de faire un dernier jeu de mots. Je sors par là.
j'étais le Messie, je raconterais n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Et les gens me croiraient, ils n'ont rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je mènerais en bateau n'importe qui, n'importe comment. Et les gens me croiraient, ils ne connaissent pas mes os. Si j'étais le Messie, je serais pédéraste avec n'importe qui, n'importe comment. Et les gens me suivraient, reniflant mon derrière. Si j'étais le Messie, je me ferais voleur avec n'importe qui, n'importe quand. Et les gens se tairaient, n'ayant rien d'autre à faire. Si j'étais le Messie, je construirais un temple avec n'importe quoi, n'importe comment. Et les gens y viendraient pour y montrer leurs airs. Si j'étais le Messie, j'aurais un œil de verre pour pouvoir fermer l'autre, pour ne rien voir du tout. Et les gens me plaindraient et vanteraient ma misère. Si j'étais le Messie, je serais un ivrogne, boirais n'importe quoi, n'importe comment, et n'importe où. Et les gens m'imiteraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je marcherais sur l'eau, n'importe où, n'importe comment. Et les gens se noieraient, croyant toujours bien faire. Si j'étais le Messie, je ferais des miracles, n'importe où, mais pas n'importe comment. Et les gens s'étonneraient, criant ferais crucifier, pas par n'importe qui, pas n'importe comment. Et les gens pleureraient, ne sachant trop que faire. Je ne suis pas Messie, heureusement pour ma mère, qui ne pourrait plus vendre sa virginité, car les gens l'achèteraient, croyant toujours bien faire. Il y a très longtemps, il y eut un Messie, il est venu d'ailleurs, d'une autre galaxie, et les gens l'ont tué. Ils avaient cru bien faire.
Alors, nous sommes avec Mathieu Lépine, professeur d'histoire à Montreuil, qui recense les accidents du travail répertoriés chaque jour dans toute la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Alors, votre compte Twitter s'appelle Accidents du travail, silence des ouvriers meurent. Pourquoi ce nom ?
Alors, ce nom, je l'ai donné volontairement provocateur au tout départ, donc quand j'ai démarré ce travail il y a deux ans et demi, parce qu'à l'origine, il y avait un compte Facebook. J'ai donné ce nom parce que clairement, lorsque j'ai établi les toutes premières données, le nombre d'ouvriers était écrasant dans les personnes victimes des accidents graves ou mortels. Avec le recul, je me rends bien compte que des personnes touchées par ces drames, il y en a dans tous les champs professionnels, des agriculteurs, des artisans, des routiers, il y en a vraiment dans tous les domaines. Maintenant, il s'avère que les ouvriers restent surreprésentés. Et c'est pour ça que j'ai donné ce nom. Plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je pourrais le changer ? D'ailleurs, c'est des remarques qu'on m'a faites en me disant, oui, il n'y a pas que des ouvriers dans ton classement. Oui, il y a le titre, et puis après, il y a exactement le travail que je mène. Ou parfois, on va me dire, oui, parce que j'ai mis un gendarme ou un policier dedans, on va me dire, oui, mais le gendarme et le policier, ce sont des ennemis de classe, tu peux pas les... Je dis, désolé, mais moi, le travail que je fais, c'est un recensement de tous les accidents du travail. Et je peux pas commencer à dire, il y a les bons accidents du travail, il y a les mauvais. Une personne qui a un accident ou qui meurt sur son lieu de travail, qu'elle soit ouvrière, qu'elle soit salariée, agriculteur ou gardien de la paix, je vais la considérer comme faisant partie des données que j'établis.
Alors pourquoi défendre cette cause en particulier ?
Cette cause en particulier parce que j'ai remarqué, maintenant ça fait deux ans et demi que je mène ce travail, qu'en réalité c'était un sujet qui restait globalement en marge du débat public. Et je trouvais ça assez dramatique qu'un sujet qui touche plus de 600 000 personnes par an, dont qui fait plus de 550 victimes par an pour ce qui est des accidents du travail, et plus de 1000 si on y ajoute les suicides et les maladies professionnelles, je trouvais ça assez dramatique que personne ne prenne le temps de s'y intéresser. C'est comme ça qu'est née un petit peu cette démarche de mon côté, quoi.
Il y a eu un déclic particulier qui fait que vous êtes lancé dans ce recensement ?
Alors au tout début, donc il y a 2-3 ans, c'était la polémique autour des propos d'Emmanuel Macron sur au sein de l'entreprise, c'est l'auto-entrepreneur qui prend tous les risques par rapport aux salariés. Des propos qui avaient choqué, il y avait eu toute une polémique puisque il suffit qu'on regarde la liste des accidents du travail pour voir que ceux qui prennent les risques, c'est encore ceux qui sont sur le chantier. Ceux qui travaillent, je ne suis pas en train de dire que l'entrepreneur, lui, ne va pas travailler, mais à moins qu'il n'y ait de risque que financier, dire que tous les risques sont pris par l'entrepreneur, c'était quand même se moquer du monde d'avoir dit ça. Et donc, moi, je suis parti de là et je l'ai pris au mot. J'ai commencé à aller regarder sur Internet les accidents du travail, voyant qu'il y en avait malheureusement une panoplie chaque jour. J'ai commencé à mener ce travail de recensement que j'ai arrêté, que j'ai repris, parce que c'était long et fastidieux.
Et pourquoi sur Twitter ?
Parce que sur Twitter, je me suis aperçu que c'était un média bien plus utilisé par les militants, par les journalistes, des personnes qui peut-être au premier abord allaient être plus intéressées par le sujet. Puisque ce qu'on remarque, c'est que les accidents du travail, en réalité, on en parle une fois par an, au moment où la Sécurité sociale sort les données de l'année précédente. Et là, dans tous les médias, les politiques, tout le monde va mettre en avant ce chiffre. Mais il s'avère que le reste de l'année, ça intéresse pas grand monde. Et du coup, moi, j'essaye de combler ce vide à travers ce recensement.
Comment vous l'établissez, ce recensement ?
Alors en fait, chaque jour, je cherche sur Internet toutes les informations que je peux trouver concernant les accidents du travail graves ou mortels qui ont eu lieu en France. J'ai des Google Alert, j'ai de plus en plus de personnes aussi maintenant qui m'envoient des liens. Souvent, c'est des articles très très courts, dans des médias locaux, régionaux, des articles classés dans les faits divers, donc très peu de détails. Parfois, on connaît même pas l'âge de la personne, parfois, on a à peine le métier de la personne. Donc j'essaye de lire, parfois de mettre en lien plusieurs informations qui me sont données pour essayer d'avoir, moi, à la fin, un maximum de données, justement. J'essaye aussi de mener une sorte de recensement de toutes les plaques commémoratives qui existent en France sur des lieux de travail, dans les rues, pour rendre hommage à toutes les victimes du travail, comme on a des plaques pour rendre hommage à des anciens résistants, à des anciens déportés, etc. Il existe un petit peu partout, dans toutes les rues de France, beaucoup moins, bien évidemment, mais des plaques qui rendent hommage, sur un pont. Tel ouvrier est décédé lors de la construction de ce pont, tel ouvrier est décédé lors de la construction de tel bâtiment, et j'essaye un petit peu de recenser. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y en a moins, mais donc c'est là où j'essaye de lier un petit peu la démarche d'historien et le travail que je mène sur les accidents du travail.
Donc vous diriez que vous le faites davantage dans une perspective d'hommage plutôt que permettre une prise de conscience ?
C'est les deux. Après, le recensement que je mène chaque jour, là, c'est clairement la question de la prise de conscience. Et après, je suis venu mêler à ça ce travail autour de ces plaques commémoratives ou d'accidents du travail qui ont eu lieu par le passé, quoi.
Alors, un petit point pratique pour nos auditeurs. Au regard de la loi, qu'est-ce qui caractérise un accident du travail ?
Un accident du travail, c'est un accident qui a lieu sur le lieu de travail ou de par l'activité professionnelle. Une personne qui chute sur son lieu de travail, une personne qui se blesse avec une machine. Et c'est là où justement la question des suicides parfois arrive. C'est que des suicides peuvent être considérés comme des accidents du travail, parce que le lien entre le suicide et le travail, quand il est clairement établi, le suicide peut être considéré comme un accident du travail. Le problème des suicides, c'est que parfois il y a plusieurs raisons qui ont amené à ce suicide. Et pour le classifier dans les accidents du travail, il va falloir quand même que la donnée professionnelle ait joué un rôle plus important. Après, moi, il n'y a rien d'officiel dans mes données, donc je peux très bien considérer qu'un classé dans mes données à moi un suicide comme accident du travail, et que derrière, officiellement, il ne le soit pas.
Alors, vous parlez de silence, mais la loi, elle a déjà évolué vers des mesures de prévention des risques, notamment le droit à la déconnexion pendant la loi El Khomri en 2018 ou la qualité de vie au travail pendant la loi Rebsamen en 2015. C'est une preuve que la question, elle est quand même présente dans le débat public. Vous ne trouvez pas ça suffisant ?
Non, parce qu'en attendant, il y a les CHSCT qui ont été détricotés, il y a l'inspection du travail qui est détricotée, il y a la médecine du travail qui est détricotée. Et tout ça, ça a des conséquences importantes. Et puis pendant ce temps-là, il y a aussi le travail qui évolue. Avec l'uberisation de la société, la montée de l'auto-entrepreneuriat, tout ça, ça a des conséquences. D'ailleurs, moi, ce qui a fait que j'ai relancé ce travail tout début du mois de janvier 2019, c'est deux accidents très emblématiques. Celui d'un livreur Uber Eats dans la banlieue de Pessac de 18 ans qui travaillait pour payer ses études et qui meurt pendant une course. D'ailleurs, lui, il ne sera pas reconnu comme un accidenté du travail. Son accident sera un accident de la route, alors qu'il est mort pourtant pendant sa course pour la plateforme Uber Eats. Et de l'autre côté, il y a eu quelques jours après un accident à Versailles, où cette fois, c'était un ouvrier auto-entrepreneur de 68 ans, qui est mort suite à une chute. Et donc, d'un côté, on a ce jeune étudiant de 18 ans qui meurt pour la plateforme Uber Eats, et de l'autre côté, on a un ouvrier qui, à 68 ans, devrait être à la retraite depuis déjà quelques années, qui, lui, meurt aussi sur son lieu de travail. Et donc, tout ça, c'est lié aux nouvelles formes d'activité professionnelle. On voit aussi, quand on analyse les données de la Sécurité sociale, que dans l'intérim, le nombre d'accidents du travail explose, que dans le secteur des services à la personne, où beaucoup de femmes sont concernées, le nombre d'accidents du travail explose aussi. Donc, j'ai pas l'impression que les dernières mesures qui ont pu être prises ont joué un rôle pour amenuiser tout ce dont je viens de parler avant, quoi. Lorsqu'on vient me dire « Ah oui, mais vous êtes un rabat-joie, regardez les chiffres. Aujourd'hui, il y a 535 morts par an au travail. L'an dernier, c'était 540. L'année d'avant, c'était 550. Et donc, les chiffres baissent. » Peut-être que les chiffres baissent. Et tant mieux, il faut s'en réjouir s'il y a moins de morts au travail. En attendant, le nombre de suicides, je crois pas qu'ils soient en baisse. Les maladies professionnelles, je crois pas qu'elles soient en baisse. Et tout ça, c'est lié. Parce qu'encore une fois, si on additionne tous les chiffres, c'est plus d'un millier de personnes qui meurent chaque année du fait de leur travail. Que ce soit dans un accident du travail ou lié à une maladie professionnelle ou un suicide. Et donc moi, je peux pas me contenter de ça, de regarder en fait ce graphique et se dire « Ah bah ça baisse, on est content ».
Le tribunal correctionnel de Paris a donc rendu son jugement dans le procès France Télécom. Le harcèlement moral est bien établi. Didier Lombard, l'ancien PDG de la société, écope d'un an de prison, dont 4 mois ferme. Il devra également s'acquitter d'une amende de 15 000 euros, même condamnation pour 2 autres membres de la direction. La pression au sein de l'entreprise était tellement intense que 19 personnes se sont donné la mort à la fin des années 2000.
Faut que je travaille, je veux pas qu'on pousse, j'ai ce que j'ai à faire. Le lac où les douces, c'est ce que j'aime bien faire.
bien le temps passé dans ce fauteuil en cuir enfoncé, défoncé dans ce cuir tout déchiré, à regarder par la fenêtre les feuilles qui frétillent et puis ces grandes silhouettes sombres dans la lumière froide. Combien de temps allonger les murs? Combien de temps allonger, allonger les murs? Combien de temps passé goutte à goutte sans arrêt le robinet grippé au-dessus de la baignoire, trois, quatre poils frisés sur le bord de l'émail. Pourquoi tu mets des lunettes noires devant le lavabo? Combien de temps passé, complètement immobile, tuyaux de riboporine, il y a de l'air plein les radiateurs, mais c'est pas clair non plus ailleurs. Mâchouiller un chewing-gum, le tirer, le remâcher, y'a plus de sucre dans la gomme, le tirer, le remâcher.
Puis j'ai pris la première. où la musique se fait bandant pour la Pietà Dolorosa. Ce soir je serai au Lacho, en la Mexico, au Lacho, au Lacho, dans le discours Cuernavaca, je réalise ma tendresse des volcans. Casino de la Selva, le soleil se perd au ponant. Et je picole en compagnie d'un spectre imbibé de strychnine. Ouais, comme Seigneur ma glorie sous la lune caustique et sanguine.
Ce soir je suis El Boracho, en paix, en paix, en paix, en paix.
Pensez que ça baisse juste parce que ceux qui sont répertoriés, c'est des critères très stricts. Parce que vous parliez d'ubérisation de la société qui fait qu'il y a plus d'accidents du travail, donc c'est pas un peu paradoxal.
J'ai pas dit que l'ubérisation faisait qu'il y avait plus d'accidents globaux du travail, j'ai dit que c'était une nouvelle forme en fait, de travail qui amène à une nouvelle forme d'accidentologie. Ouais,
qui sont pas répertoriés du coup.
Oui. Oui, mais de toute façon, dans les chiffres de la sécurité sociale, il y a tout un tas d'accidents du travail qui ne sont pas répertoriés. Déjà, tous ceux qui ont été volontairement maquillés, et ça existe. Encore dernièrement, il y a un...
Pourquoi maquillés ?
Encore, justement, je vais prendre cet exemple-là. Dernièrement, il y a un chef d'entreprise, un chef de chantier, qui a été condamné parce que, c'était en 2016 ou 2017, un ouvrier qu'il avait employé sans contrat de travail sur son chantier est décédé. Et lui, qu'est-ce qu'il a eu pris comme décision ? Il a demandé à d'autres ouvriers d'aller déposer le corps un peu plus loin dans une rue et de repartir. Il s'avère que, suite à une enquête, on s'est rendu compte de la réalité de la situation. Et c'est un exemple qui démontre qu'il y a parfois une volonté de maquiller un accident. Moi, j'en ai d'autres, des exemples, des gens qui me racontent, sur leur lieu de travail, le patron, le chef de l'usine a enlevé les sécurités sur les machines pour une productivité plus importante, etc., que quelqu'un se blesse, et qu'ensuite, la personne, on lui met la pression, parce qu'elle a plus de 50 ans, parce qu'elle a un contrat précaire et qu'elle n'a pas envie de perdre son travail, pour que l'accident ne soit pas déclaré comme un accident du travail. Donc ça existe. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a les données officielles qui prennent en compte un tas de cas énormes, et puis il y a ensuite tout un tas de cas qui ne sont pas répertoriés, et puis il y a ce dont vous étiez en train de parler, tous les accidents là liés à l'ubérisation du travail qui ne sont justement pas considérés comme des accidents du travail. Moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de démontrer que derrière les chiffres, c'est des êtres humains dont on est en train de parler. C'est pas un ouvrier qui meurt, c'est pas un agriculteur, c'est une personne avec un nom, un prénom, un âge, une famille, une histoire. Et moi, j'essaye de redonner un petit peu, de remettre la question, on va dire, humaine au centre du sujet.
Alors, vous parlez de silence. Vous pensez que c'est un silence volontaire de la part de médias ou plutôt de l'indifférence ?
Je pense qu'à force de ne pas en parler, ils ont fini par oublier que le sujet existait en réalité. Je ne sais pas si c'est un silence volontaire, peut-être de certains médias. J'ai été contacté par des médias nationaux, des journaux nationaux, et en discutant avec la personne, on finissait par me dire « Désolé, dans notre ligne éditoriale, on n'a pas la place pour parler de ça. Bon, » Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, un média... national n'est pas la place pour parler un petit peu quand même d'un sujet qui touche plus de 600 000 personnes par an. Non, je pense qu'il y a une ignorance déjà chez beaucoup de gens. Je vois, moi, tout un tas, depuis que je mène ce travail, des gens proches ou plus ou moins proches de moi qui viennent me dire « je connaissais pas tous ces chiffres, je savais pas qu'en France, en 2019, il y avait 500 personnes par an qui mouraient au travail ». Donc je pense qu'il y a la question de l'ignorance. Et puis, il y a aussi la question de l'audimat, je suis pas sûr que ce soit un sujet très vendeur qui attire beaucoup de monde et que du coup on va le mettre un petit peu de côté. Et comme je disais tout à l'heure, on va ressortir les données une fois par an lorsqu'elles vont être établies, et puis le reste du temps il y aura certainement des trucs plus importants entre guillemets à évoquer. Alors là, pour l'instant, donc j'ai plus de 330 ou 340 accidents répertoriés depuis le 1er janvier 2019. Je suis en train d'essayer de construire une carte interactive pour qu'on voit bien que ces accidents, déjà, ils ont lieu partout sur le territoire français. J'aimerais bien pouvoir tenir un an pour pouvoir ensuite faire une analyse, on va dire, un petit peu plus poussée de toutes ces données.
Est-ce que c'est pas un problème à régler à plus petite échelle d'abord ? Pas plutôt un problème de management davantage économique plutôt que social.
Ce qui est sûr, c'est que dans les entreprises, il y a un défaut d'information et de formation. Encore une fois, régulièrement, il y a des patrons qui sont condamnés à cause d'un défaut de formation qui a pu mener à un accident. Donc je pense, si on parle d'une plus petite échelle à l'échelle de l'entreprise, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. J'ai une personne l'autre jour qui travaille à Monoprix, qui travaille au rayon fromagerie à Monoprix, qui est venu me raconter, bah voilà, la difficulté de ses conditions de travail. Depuis que le groupe a été racheté, on a moins de monde à travailler sur son poste. Elle se retrouve toute seule alors qu'avant ils étaient trois. Et elle me dit, voilà, chaque hiver, je coupe 50 à 60 kilos par week-end de fromage. Et aujourd'hui, bah, je peux plus me servir de ma main. Et elle me parlait de la mise en rayon, etc. Et je lui dis, mais depuis que vous êtes arrivé chez Monoprix, est-ce qu'un jour vous avez eu une formation sur les gestes ou les positions à adopter quand vous faites de la mise en rayon ou quand vous faites votre travail à la fromagerie? Elle m'a dit jamais. Elle a jamais eu une seule journée de formation sur ces sujets-là. Et bah, je pense que peut-être qu'on aurait pu éviter, quand on parlait de souffrance au travail ou de maladies professionnelles, on aurait pu éviter tout un tas de problèmes pour son cas elle et pour le cas de bien d'autres personnes s'il y avait eu cette formation qui avait pu lui être donnée.
On peut faire un parallèle entre votre recensement et celui de Dufresne. On constate que les violences policières touchent beaucoup moins que les accidents du travail aujourd'hui. Comment on explique cette différence d'intérêt et pas que de la part des médias ?
Alors le lien avec David Dufresne, bah, il est clairement établi, puisque moi, lorsque j'ai créé ce compte Twitter, au tout début de l'année, je me suis clairement inspiré de ce qu'il faisait lui. Bah, lui, en gros, dès qu'un cas de violence policière, notamment dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, est amené à sa connaissance, il fait un appel à la place Beauvau pour signaler cet accident. Il joint souvent un lien, une image, une vidéo. Et moi, du coup, j'ai fait la même chose, sauf que moi, je fais des appels à Muriel Pénicaud, à Allô Muriel Pénicaud. Et à chaque fois que je publie une donnée, bah, j'y joins le lien, la source liée à cet accident. Ce qui fait que les violences policières intéressent beaucoup plus en ce moment, bah, c'est le lien direct avec le mouvement des Gilets jaunes et le fait que malheureusement, j'ai l'impression que des gens découvrent les violences policières qui existent pourtant déjà en banlieue et ailleurs depuis toujours, j'ai presque envie de dire. Et donc ce sujet, il a été un petit peu amené comme ça en tête des journaux, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et je pense que c'est le lien direct entre le mouvement des Gilets jaunes et le travail de David Dufresne qui fait qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Si David Dufresne avait mené ce travail-là en dehors des Gilets jaunes, je suis pas sûr qu'il aurait eu il aurait été aussi entendu qu'il ne peut l'être aujourd'hui. Donc moi, il y a un lien direct puisque je me suis inspiré de ce qu'il a fait. Et on va dire que ça a plus ou moins fonctionné puisque la page Facebook qui existe depuis 2 ans, elle était suivie par 3000 personnes et que le compte Twitter, il est suivi par presque 12 000 personnes aujourd'hui et que les liens sont régulièrement partagés. Donc je regrette pas de m'être inspiré de son travail.
Donc vous prenez vraiment en compte tous les commentaires de ceux qui vous suivent sur Twitter, que ce soit au niveau local, régional, national.
Je me suis donné un cadre, et ce cadre, c'est les accidents du travail qui ont lieu en France, sur le territoire français. Du coup, moi, je reste dans ce cadre-là. Et ensuite, par rapport aux données qui me sont envoyées, je suis obligé parfois de faire le tri aussi, parce que je me suis aussi donné comme objectif de recenser les accidents graves et mortels. Je remercie toutes les personnes qui m'envoient des liens régulièrement parce que ça m'aide beaucoup.
Alors, on rappelle que votre chaîne s'appelle Accident du travail, silence des ouvriers meurent. Merci Mathieu.
Femme de détruire de l'air. Femme de détruire. La la la. Je suis mort, qui dit mieux? Bah mon pauvre vieux, voilà autre chose. Je suis mort, qui dit mieux? Mort le venin, coupé la rose. J'ai perdu mon âme au chemin. Qui la retrouve, cela m'est aux choses. J'ai perdu mon âme en chemin. Qui la retrouve, la jette au chien. Je m'avais collé avec une fumelle. Bah alors ça, c'est la plus belle. Je m'avais collé avec une fumelle. Le jour où j'ai brûlé mes sabots, j'y avais flanqué un marmot. Maintenant que son père est pu ce monde, l'a poussé, ce petit crève la faim. Faut que ma veuve lui cherche un part. Faire la lèvre, faire la Il y en avait déjà trouvé un. Et j'ai pas les yeux dans ma poche. Elle y en avait déjà trouvé un. Dame, faut prévoir en cas de besoin. C'est lui qui flanquera des taloches à mon petit haut pour qu'il se tienne bien droit. C'est du joli, moi je trouve ça moche de cogner sur un plus petit que soi. La 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 la. Cela dit, dans ce putain de cimetière, j'ai perdu mon humeur au morose. Jamais plus personne ne vient m'emmerder quand je me repose à faire l'amour avec la terre. J'ai enfanté des petits vers blancs qui me nettoient, qui me digèrent, qui font leur nid au creux de mes dents. Faire la la tuée, la la. Arrêtez-moi si je déconne. Arrêtez-moi ou passez me voir. Sans violette, sans pleurs, ni couronne. Venez perdre un moment, cafard. Je vous ferai visiter des cousins. Morts à la guerre ou morts de rien, esprit qui vous cligne de l'œil, les bras tendus hors du cercueil. Fralla de aujourd'hui, je vous sens bien las. Ne soyez plus intimidés. À mon côté reste une place. Ne tient qu'à vous de l'occuper. Qu'est-ce que tu as? Oui, le temps passe. Et le petit va rentrer de l'école. Dis-lui que son père a pas eu de bol. L'a raté le temps, c'était le dernier. La 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 la. Attends un peu, ma femme, mamie. Y a un message pour le garçon. J'ai plus ma tête, voilà que j'oublie où j'ai niché l'accordéon. Peut-être à la cave, peut-être au grenier. Je n'aurai de repos qu'il apprenne. Mais il est tard, sauve-toi, je t'aime, riez pas du pauvre Maccabé. Frère la de Gérlère, ceux qui ont jamais croqué de la veuve, les bordées de nouilles, les tirs à blanc, qu'ont pas gagné une mort toute neuve. À la tombola, les mutants peuvent pas savoir ce qui gigote dans les trous du défunt cerveau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Quand sa moitié dépose une botte de rose sur le chardon du terreau. Frère,
gentil.
Très gentil.
Qui c'est qui est très méchant?
Très méchant.
Qui a tous les premiers prix?
Très gentil.
Qui roupille au dernier rang?
Très méchant.
Qui fait des économies?
Très gentil.
Et qui gaspille son argent?
Très méchant.
Qui c'est qui vend des fusils?
Très gentil.
C'est comme à Guignol, spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde y croit. Mais pourtant, pour qui t'as de l'antipathie?
Les gentils.
Pour qui t'as un gros penchant?
Les méchants.
C'est travail, famille, patrie, les gentils. C'est la retraite à 20 ans, les méchants. Ils font l'amour le samedi. Ils font ça n'importe quand, les méchants.